Tu as coupé ton... Je crois qu'il faut complètement couper. Voilà, alors est-ce que déjà, premier test, alors, bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux que je connais déjà bien, celles et ceux que je ne connais pas encore. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois le petit curseur de mythe qui s'agite, donc a priori c'est bon. Alors, bon, moi j'avais intervenu, prévu mon propos en fait, sur une thématique qui était un empire fractalisé, et il me reste donc un peu à fermer la marche de ces deux interventions précédentes, très historiques et fort intéressantes, très riches, et évidemment je vais me déterminer par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, alors on était parti pour mon intervention à la base sur une réflexion qui avait été faite en marge de ce qu'on a appelé la crise catalane, enfin qui d'ailleurs a toujours lieu à l'heure actuelle, c'est-à-dire cette tentative d'indépendance hein, de la Catalogne et donc cette province de l'Espagne, et qui plus est le souhait de la Catalogne d'intégrer ensuite, une fois cette indépendance réalisée, l'Union européenne. Et ça avait déclenché une réflexion du prédécesseur d'Ursula von der Leyen, hein, président de la Commission européenne actuelle, hein, donc qui était à l'époque Jean-Claude Juncker, et qui avait dit, on a retrouvé la citation avec Trajan, hein, citée, je cite, dans le Figaro du 13 octobre 2017, si vous voulez la retrouver, on l'a facile à trouver, donc Juncker disant « Je ne veux pas d'une Union européenne qui comprendrait 98 États dans 15 ans, c'est déjà relativement difficile à 28, pas plus à 27, bon évidemment on avait le Brexit en cours, mais à 98, ça me semble impossible ». Voilà. Alors, à partir de là, évidemment, de cette citation, de tout ce que on a entendu depuis le début de ce séminaire, de ce webinaire, on voit bien quand même, le poids de l'histoire, qui est tout à fait conséquent dans tout ça, et pas que de l'histoire récente, pas que de l'histoire nécessairement de l'Est, hein, mais de l'histoire tout court. Alors évidemment, je ne vais pas faire de retour historique, moi, je crois que ça a été suffisamment bien fait, mais je pense que ce soit Tivadar ou Trajan ont bien montré que cette fragilité, quelque part, de toutes les formes qu'a pu prendre l'Empire, en tout cas dans l'histoire européenne, hein, qu'il s'agisse, on l'a à peine évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, l'Empire, évidemment, austro-hongrois, l'Empire Kaunika, et puis avant, toutes les racines médiévales, l'Empire d'Autriche, le Saint-Empire romain germanique, Trajan a même été jusqu'à évoquer tout à l'heure l'Empire, évidemment, carolingien, hein, toutes ces formes, donc sur quoi 2000 ans quand même, nous montre hein, qu'il y a incontestablement des forces qui s'opposent hein, dans ce que nous définissons comme étant le territoire européen, et qui va évidemment au-delà de l'Union européenne actuelle. Hein, je vous en rappelle que les limites hein, se vont jusqu'à l'Oural, hein, et donc jusqu'à des zones particulièrement contestées en marge de l'Empire européen actuel, comme Tivadar l'a rappelé tout à l'heure, puisqu'on est allé jusqu'à réévoquer quand même, qui est toujours en cours, et à nouveau en cours d'ailleurs depuis maintenant quelques mois, de ce qui se passe en effet dans les marges entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, hein, ça ce sont des marches effectivement de l'Empire, mais là aussi ce sont des zones qui se fractalisent. Alors la question c'est de se demander peut-être quand même pourquoi, comment en est-on arrivé là, quoi, comme souvent on le fait, tant de le faire en histoire, Trajan a très, très justement rappelé René Giraud, et comment ne pas évoquer l'école de l'histoire des relations internationales, les forces profondes, le fameux, enfin moi je suis obsédé par cette théorie des relations internationales, Jean-Baptiste Durosel et Pierre Renouvin, qui s'appelle « Tout empire périra », je crois que ça c'est quelque chose qui ne peut qu'être cité dans ce type de petits séminaires qu'on a ensemble, parce que manifestement, en effet, quelques formes qu'est cet empire, et on a vu toutes les tensions à l'est, on l'a vu, Traian nous l'a bien montré autour du cas de la Roumanie, Tivadar tout à l'heure aussi, en faisant un panel historique de ce qui s'est passé à l'est, du cas de la Moldavie, qui est quand même un cas fort intéressant à ce sujet, qu'il y a continuellement une lutte effectivement entre une domination impériale, en effet, des forces profondes, ce que moi j'appelle des forces profondes, j'oserais appeler des forces profondes, qui font que ça tiraille dans des sens opposés, c'est-à-dire qu'au moment où l'Empire s'affaiblit, pour diverses raisons, chute de l'Empire soviétique, crises diverses européennes, puisque on appartient, si j'ai bien compris, de traité de la partie sur l'après-89, donc je vais essayer de vous en faire un petit tableau en essayant de rattraper le retard global qu'on a pris pour que ceux qui doivent partir le puissent quand même. Mais de toute façon, c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense que c'est un vrai plaisir, au contraire, qu'on déborde, quand c'est un peu, tant qu'on peut le faire, c'est toujours une... Plus la maison de la recherche ferme à 20h, donc on a le temps, donc on a encore du temps, voilà, c'est très bien. Alors, ces tiraillements, évidemment, je vais pas revenir sur toute la partie historique, sur l'entre-deux-guerres, etc. Mais, il faut quand même bien se souvenir qu'avant 1914, on a quand même une Europe, entre guillemets, relativement stable, une Europe des empires, que celle-ci est complètement remodelée, je fais vite, après la guerre de 14-18, par les traités de paix, etc., qui vont remodeler, recréer une nouvelle Europe centrale, constituée d'États indépendants, souvent de jeunes républiques fragilisées, ce que d'ailleurs, on oublie souvent de le dire, est une situation qu'on va retrouver après 1989. C'est très intéressant de comparer la période du début des années 20, il y a un siècle justement, avec la période précisément que l'on vit après 1989, on a ces jeunes démocraties, d'États redevenus démocratiques après 40 ans de totalitarisme qu'a évoqué quand même largement Traian tout à l'heure. Tout cela en font des États fragilisés qui vont avoir une montée en voulant entrer dans l'Union européenne. Ils vont d'abord rentrer dans l'OTAN, puisque c'est l'aspect militaire, de protection vis-à-vis de l'Est, faut bien le dire, qui n'a fait que se renforcer encore ces derniers temps. Et puis, dans un deuxième temps, entrer dans le club économique de prospérité impériale, si je puis dire, enfin j'improvise, mais pourquoi pas, c'est-à-dire dans ce que Traian a rappelé tout à l'heure, ce que l'on va rendre, parce que peut-être effectivement, c'est très intéressant ce que tu as dit, je rebondis, parce qu'on a un séminaire, j'ai trouvé très intéressant sur l'idée de la redistribution, justement, de l'axe germanique, avec le plan, évidemment, le plan de redémarrage après la crise pandémique. Enfin, si toutefois elle se termine, ce qui n'est pas encore le cas, quand même. Alors, effectivement, ça, c'est ce qui se passe dans les années 90, dans les années 2000, tout ça crée une dynamique vraiment importante, avec les élargissements, vous le savez bien, 2004, 1995, si on compte l'entrée de l'Autriche, même si c'est pas un pays de l'Est, c'était quand même un État qui n'était pas dans l'Europe, mais de 2004, le grand élargissement, 2007 avec la Bulgarie et bien sûr la Roumanie, et puis le dernier de 2013 avec la Croatie. Alors là, jusque-là, on va dans une dynamique, et il est évident que l'année 1992, le moment où en effet, quiconque fait un peu d'histoire de l'Europe, c'est toujours nécessaire de le rappeler, on passe d'une communauté économique à une Union européenne, c'est quand même fondamentalement quelque chose de très différent. Au revoir Ekaterina, elle doit partir, voilà, une prochaine fois sans doute. Voilà. Ce changement de 1992, qu'il faut quand même toujours rappeler, qui est qu'évidemment l'Union européenne ne sera plus une communauté économique, une communauté de prospérité, d'union douanière améliorée, etc. On passe à un plan de construction d'une union, union monétaire, abaissement des frontières, quelque chose de beaucoup plus resserré, qui ne va pas être nécessairement perçu de cette manière-là lors de l'adhésion. On le sait bien, c'est toutes les analyses des eurobaromètres qui l'ont montré à l'époque, etc., dans les pays, les ex, même si ce terme est abominable selon moi, de PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, dont on a pas mal parlé. Alors là, évidemment, c'est une forme de désillusion, et puis il y a quand même la phase supérieure à laquelle devait passer ce plan d'intégration impériale, si on peut dire, qui était le fameux traité constitutionnel, qui est rejeté en 2005 de façon démocratique, puisque suffrage universel, hein, tant en France que dans les Pays-Bas. Et là, on le sait bien, ça marque un coup d'arrêt, même si après, il y a quelques replâtrages, etc., pour que le système continue de fonctionner. Là, effectivement, il y a un moment où on dit, effectivement, stop, c'est pas nécessairement stop à l'Europe, mais ça veut dire n'allons pas peut-être pas si vite que ça, prenons un peu plus de temps, et ça va marquer un coup d'arrêt, et ensuite on a, on le sait, la grande crise de 2008, et là c'est le début de la grande désillusion et de la fragilisation, bien sûr, des derniers entrants. Hein, donc c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, les pays, certains pays balkaniques, etc. Ce qui va amener, ce qui est indiqué dans la petite synthèse que Trajan a fait, comment dire, de mon propos, bien sûr, à des dérives dans certains de ces pays, que ce soit la Pologne, la Hongrie, on le sait bien, c'est-à-dire l'évolution vers ce terme peu heureux, mais enfin quand même qui existe, de démocrature ou de démocratie dite illibérale, hein, c'est ce qui s'est produit. Et la fameuse pandémie, hein, qui a quand même un impact qu'on subit depuis maintenant 2020, un peu plus d'une année maintenant, a beaucoup accentué, hein, ces divergences et tous ces problèmes. Il a fallu attendre quand même un certain temps pour qu'on se réorganise. Ce qui a fait dire aussi à l'ancien ministre des Affaires étrangères et bon analyste européen selon moi, qui est Hubert Védrine, de dire, quand on l'a questionné sur ce sujet, bah oui, mais vous comprenez, l'Union européenne n'a pas été prévue pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas une intégration suffisante de l'Empire, hein, pour affronter toutes les crises qui nous sont tombées dessus depuis 2008. La crise économique et financière, la crise de l'euro, la crise grecque, la crise migratoire, bien sûr, la crise de la pandémie, et bien sûr, quand je dis ces crises, elles ne sont pas à mettre au passé, parce que malheureusement, évidemment, elles continuent encore aujourd'hui. On a bien vu, hein, la reprise notamment de la crise migratoire, hein, des problèmes, hein, des flux migratoires qu'il faut arriver à gérer en commun, qu'on doit arriver à gérer à 27. Alors on a beaucoup vu cet après-midi, le fait que toutes ces fractalisations, évidemment, là, si je puis dire, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est quand même dramatique, on s'en donne à cœur joie, hein, de les évoquer. Bien sûr, il y a l'ancien cas de la question de la Moldavie, de la Transnistrie, qui reste un hotspot à risque, on le sait bien. Bon, là, moi, je n'entre pas dans les détails si savants qui ont été évoqués sur le parti d'Atibada ou Trajan tout à l'heure, mais bon, on sait bien qu'il y a un tiraillement. Bah, moi aussi, je suis tenté par de boire une petite peu d'eau, parce que je subis le même phénomène, comment dire, de la voix qui se fragilise au fur et à mesure de propos. Je ne sais pas si c'est victime des cours en visio du confinement, enfin, de cette période. Donc, cas de la Moldavie, bien sûr, donc on sait bien que là, on a deux cas, un cas, en gros, une vision pro-occidentale, évidemment, d'une entrée dans l'Union européenne, pourquoi pas, d'un retour vers la Roumanie. Oui, c'est vrai, c'est la même langue, enfin, je veux dire, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je crois quand même que, bon, on peut quand même le dire. Et puis la Moldavie, historiquement, fait partie des principautés roumaines. Enfin, moi, quand je revois un peu mon histoire du 19e siècle, on la retrouve quand même. Hein. Voilà. Hein. Et de l'autre côté, bien sûr, cette tendance, avec la Transnistrie, bien sûr, vers l'Est. Chose qu'on va retrouver aussi, dans un autre cas, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est bien sûr, depuis 2014, la guerre du Donbass. Hein, ce déchirement de l'Ukraine, entre une Ukraine qui effectivement a été historiquement pro-occidentale, un peu sous l'influence de la Pologne, etc., et puis une autre, qui sont les fameuses provinces dites russes, hein, évidemment, et cette guerre qui, à l'heure actuelle, n'est pas terminée, et je ne parle même pas du cas d'école, si on peut dire, hélas, de la Crimée, hein, donc revendiquée, récupérée, annexée, avec un référendum, hein, par la Russie. Trajan, tu évoquais tout à l'heure le rétablissement, ou la difficulté de tenir l'Empire et de le rétablir, Donc effectivement, c'est certain que la Russie et la politique menée par Poutine depuis sa succession de Boris Yeltsin, il y a clairement une volonté de restaurer quelque chose. C'est tout à fait clair. Je ne peux pas dire non plus que l'URSS, enfin la Russie actuelle, soit une nouvelle URSS non plus. Il faut raison garder. Mais il y a quand même une volonté, effectivement, depuis 2008, depuis l'intervention en Géorgie, ce qui s'était jamais vu, en pleine élection, je le rappelle, de succession de Bush. À ce moment-là, en août 2008, qui avait surpris tout le monde. Mais après, ça n'a pas cessé, les différents coups, le Donbass, évidemment l'Ukraine, donc l'Ukraine, le Donbass, et puis bien sûr les différentes postures, et puis surtout aussi, et on ne l'a pas évoqué, mais avant d'aborder les fractures aussi occidentales, parce qu'il y en a bien sûr, on en parle moins, mais elles existent, c'est le cas, ne l'oubliez pas, c'est un cas originelle même de l'indépendance du Kosovo. N'oubliez pas qu'en 2008, hein, quand le Kosovo devient un État indépendant, hein, bon, sous protection occidentale, alors que c'était, n'oubliez pas, une province, hein, enfin une région autonome rattachée à la Serbie, dans la Fédération yougoslave, ce n'était pas un État indépendant le Kosovo avant, à la différence des autres, hein, que Poutine avait dit, menacé clairement, eh bien vous faites ça, vous les Occidentaux de votre côté, ben moi je vais faire pareil. Hein, de notre côté. Et ça a été, bien sûr, les indépendances reconnues que par Moscou, que l'on connaît, évidemment, notamment dans le Caucase, hein, qui ont eu lieu dans la fractalisation de ce qu'on a vu en Géorgie, l'Ossétie du Nord, l'Ossétie du Sud, etc., etc. Et ça, c'est un peu une réponse du berger à la bergère. Alors, un peu partout, on voit, entre l'Empire européen, qui est de l'UE, qui est ballotté dans tout un tas de problèmes d'origine structurelle, l'empire successoral poutinien qui tente d'essayer de rétablir effectivement une forme de prestige de l'union de l'ex-union de grandeur de l'époque soviétique, on voit bien qu'il y a effectivement des points d'entrechoquement. J'ai évoqué donc le Donbass, la Moldavie, bien sûr, le problème du Kosovo. Il y a bien sûr tous les problèmes liés bien sûr au Caucase, hein, les deux guerres de Tchétchénie, on en parle moins. Il y a toujours un terrorisme, bien sûr, qui a été une radicalisation, hein, qui est née, hein, faut pas l'oublier, de cette mise au pas de la Tchétchénie dans deux campagnes. Hein, je vous rappelle, hein, celle de Boris Yeltsin, malheureuse, entre guillemets, de 94-96, et celle de 99-2000, hein, qui avait été menée au début du règne de Poutine. Tout ça, en effet, ça procède vraiment de diverses fractalisations. Mais le cauchemar de Juncker, hein, c'est pas nécessairement tout ce qui se passe dans les marges des empires, ce qui se passe à l'Est, évidemment, c'est un bon dos, c'est vrai, il y a eu tout un tas de problèmes, diverses frontières, mais il n'y a pas que là. Et c'est ça qui, à mon avis, peut nous interroger sur la période vraiment, vraiment récente. Et si peut-être qu'en effet, l'évolution de l'Europe, qui sera une évolution que décideront les citoyens européens, il n'y a pas là-dedans, il ne faut pas sombrer non plus dans l'idée que tout se décide à Bruxelles et que, comment dire, nous ne sommes que des marionnettes ou je ne sais quoi. Non, il ne s'agit pas de cela. Je veux dire, heureusement, l'histoire montre de façon régulière que les peuples, à un moment donné, finissent aussi par reprendre le contrôle. C'est arrivé quand même un certain nombre de fois. Bon, il ne faut quand même pas être, le Brexit en est tout à fait un exemple et pas que lui. Hein. Alors, il y a d'autres cas. Alors, on a évoqué ce cas central au début de mon intervention sur l'affaire de la Catalogne 2016-2017, puis Demont, etc. Mais il y a un autre cas qu'on a moins évoqué et qui était parti un peu comme un canular, mais un canular selon moi, qui plutôt était quelque chose de stigmatisant, hein, qui a été l'affaire de la Belgique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des années 2010-2011, hein, où en pleine tranquillité, si je puis dire, européenne, une fausse dépêche du journal télévisé de la RTBF passe le soir en annonçant, alors bien sûr c'était un canular, un prank, comme on dirait aujourd'hui, hein, donc une fake news presque, hein, enfin c'est plutôt un canular, de faire croire que eh bien, les provinces donc wallonnes hein, avaient fait sécession hein, de la partie donc des deux parties de la Belgique hein, qui sont l'une hein, on le sait flamande hein, flamingante hein, et l'autre partie qui est francophone. Elle a fait sécession, on le sait bien, l'histoire de la Belgique est récente, est à jeune hein, 1830 hein, ne l'oubliez pas, et là était apparu pourtant c'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans les années 70, il y a eu tous ces mouvements comment dire identitaires qui se sont développés, surtout évidemment bien souvent comment dire, classé à l'extrême droite, hein, évidemment. Et voilà que en 2010-2011, eh bien voilà, les Wallons et les Flamands ne veulent plus, ne voudraient plus vivre ensemble, etc., etc. Hein, bien sûr, ça n'aurait pas eu lieu, mais on sait très bien qu'il y a dans la Belgique actuelle, effectivement, une forte différenciation hein, entre ces différentes provinces du Royaume de Belgique. Bon. Et moi je peux vous le dire parce que moi qui suis d'origine de la région, je ne suis pas belge, mais je suis plutôt né dans une terre du Pas-de-Calais qui est donc sur le plan toponymique qui se situerait dans la Flandre, hein, il est très clair que là, les frontières, ces frontières si compliquées à tracer pour lesquelles on stigmatise toujours l'Europe de l'Est, on les retrouve aussi tout près de chez nous. Où vous avez, par la toponymie, hein, et bien tout simplement tout un tas de mêmes noms, de villes, etc., que l'on retrouve des deux parts et d'autre des frontières franco-belges, si vous voulez. Hein. Donc, en fait, cette fractalisation potentielle, elle est partout. Hein, et parfois, elle ressurgit au fur et à mesure qu'il y a des problèmes divers, des crises. Et ça concerne, bien sûr, pas que l'Europe de l'Est, mais, selon moi, l'intégralité de notre territoire, péninsule européenne, si on peut la définir comme ça. La Catalogne, évidemment, est un cas emblématique, et tu l'évoquais tout à l'heure, bien au revoir Nicolas, ça, je sais bien que le dépassement d'horaire fait qu'on est dans le contraint, mais je vais essayer de me diriger vers la conclusion assez rapidement. Pour dire que ce cas-là, et tu l'évoquais tout à l'heure, Trajan, effectivement, est aussi emblématique avec le Brexit. Alors, la Grande-Bretagne, on le sait, n'est pas rentrée tout de suite dans les pays qui sont rentrés dans la communauté européenne, on sait très bien pourquoi. Général de Gaulle était plutôt opposé. Et puis, effectivement, la spécificité de la Grande-Bretagne, c'est que c'est une île, etc., et qu'elle a toute une histoire particulière. Vous me direz oui, mais ça a pourtant marché pour, évidemment, les Irlandais, qui, eux, sont tout à fait rentrés dans l'européenne, qui ont l'euro, etc., etc. Et peut-être parce que, justement, il y avait cette opposition hein, génératrice de dynamique hein, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qui existe toujours hein, à l'heure actuelle. Mais le Brexit, même si c'est un cas particulier, s'il s'étale sur une période très longue, 2016 à 2020, hein, a engendré quoi ? Eh bien, il engendre une fractalisation qui se poursuit. Puisque les Écossais, hein, et peut-être bien demain aussi le Pays de Galles, hein, un certain nombre d'autres provinces de ce qu'on appelle toujours le Royaume-Uni, hein, ont des velléités de s'en aller. Et dans le cas de l'Écosse, quand même, là, ça pose un véritable problème, puisqu'il y a quand même multiples référendums, hein, sur le cas écossais, une volonté de l'Écosse, elle, de ne plus être dans le Brexit et de revenir hein, dans l'Union européenne. Alors, à l'heure actuelle, ça semble évidemment peut-être un peu un rêve, mais enfin, Nicola Sturgeon, dynamique Premier ministre écossaise, en tout cas, je pense, n'est pas prêt de lâcher l'affaire. On ne peut pas, évidemment, ici, faire de l'Uchronie et se projeter dans ce qui se pourrait se passer, mais là aussi, on constate donc que, dans notre Europe Europe occidentale, eh bien, ces fractalisations hein, existent. Bon, je ne reviens pas sur des cas plus anciens, comme le cas du Pays Basque, le cas de la Bretagne, etc. Mais tout ça, c'est pour quand même pour fermer un peu la marche du du webinaire d'aujourd'hui, de bien expliquer que, en gros, du moment que l'Empire intègre et il est une force, comment dire, de coprospérité qui s'élargit de plus en plus, en gros, tout va bien. Mais à partir du moment où il s'affaiblit, à partir du moment où toutes les crises diverses lui tombent dessus, ou une mutation vers laquelle il se dirigeait ne s'opère pas, ça s'opérera peut-être dans le futur, mais pas maintenant, hein, eh bien, effectivement, les diverses crises font qu'il se fragilise, il se morcelle. Et la question, c'est de savoir, c'est peut-être bien que le format actuel bruxellois que nous connaissons n'est peut-être pas ce qui se perpétuera dans le futur, et que donc le cauchemar Jean-Claude Juncker, hein, d'une Europe fractalisée à 98 régions, ça pourrait parfaitement exister. Et finalement, après, il faut imaginer les formes qu'on pourra lui donner. Mais en 1950, le 9 mai 1950, ce qu'on a encore célébré récemment, ce qu'on appelle la fête de l'Europe, hein, qui existe toujours, hein, même si elle est un peu oubliée de tous les médias d'hiver, quelle idée avait-on de ce qui se réaliserait aujourd'hui, hein ? On n'avait qu'une idée quand même assez lointaine. L'idée, c'était l'idée de Jean Monnet, l'idée des pères fondateurs, vous le savez, était de se rassembler sur l'économique, parce que ce qui était le plus rapide et le plus simple à faire. Le reste viendrait après. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est pour ça que moi je dis, évidemment, je ne vais pas prôner pour prêcher ici pour qu'une Europe à 98 régions existe, mais je dis simplement que tout est possible, et que il faut veiller, je pense, à ces forces profondes, de résurgence des identités diverses qui émergent au fur et à mesure que, évidemment, nous progressons vers quand même maintenant le début des années 20 du 21e siècle. Et que donc, voilà, ça n'est pas que l'Est, ça n'est pas que les Balkans, ça n'est pas que les marges de l'Empire, dans les parties vers l'Asie centrale, etc., qui se fractalisent. Oui, ces parties-là sont, comment dire, emblématiques, parce qu'elles sont fragiles, fragilisées, fragilisantes, mais également, nous avons dans une partie qu'on considère peut-être comme stable, tout autant de phénomènes, et des phénomènes qui ne sont pas terminés. L'histoire de l'indépendance de l'Écosse, la question de la Catalogne, toutes ces choses-là sont toujours, à l'heure actuelle, sur le tapis, et je pense que plus, elles pourraient se multiplier. Je vous renvoie au chapitre très intéressant du livre, et je conclurai là-dessus, que Trajan a montré tout à l'heure, hein, le livre du ministre, donc Le Maire, hein, fort intéressant, puisqu'il y a un chapitre entier évoqué, où il évoque effectivement cette fractalisation à la fin, qui est très intéressante. Évidemment, lui ne la souhaite pas, il est dans une position politique, évidemment, hein, mais qu'il évoque quand même que, effectivement, ça fait partie des enjeux actuels. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir laissé dépasser de 23 minutes notre webinaire. Et bien sûr, on a encore un peu de temps pour répondre à toutes les questions, bien sûr. Voilà. Merci.